questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, c'est la suite d'une série d'émissions consacrées aux symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ce cinquième épisode est consacré aux troubles de la reconnaissance. Notre invitée pour cette série d'émissions, Judith Mollard-Palacios, la psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous.
Alors avant toute chose, Judith, pour commencer, qu'on comprenne bien, que désignent exactement les troubles de la reconnaissance ?
C'est un trouble qui arrive tardivement dans la maladie, dans l'évolution de la maladie, et c'est un trouble qui va faire que la personne va avoir des difficultés à analyser les informations qu'elle reçoit, à analyser les informations visuelles, mais aussi parfois les informations auditives, olfactives ou même tactiles. Alors c'est souvent, c'est surtout prégnant quand il s'agit des problèmes de reconnaissance visuelle, la personne va avoir du mal à reconnaître certains objets, elle va aussi avoir du mal à un moment donné à reconnaître certains visages, des visages plus ou moins familiers mais qui à un moment donné ne sont plus forcément reconnus. Donc ça peut également toucher la reconnaissance auditive et par exemple la personne peut être en difficulté elle ne saura plus reconnaître par exemple le bruit de l'aspirateur et ça va générer évidemment de l'anxiété et parfois même un moment de panique. En ce qui concerne la reconnaissance plutôt sensorielle, tactile, elle peut avoir de la difficulté à adapter par exemple sa marche sur un sol plus mou, quand on passe d'un sol en bitume à de l'herbe, par exemple. Elle va plus savoir analyser ces informations tactiles et adapter finalement son attitude, son comportement pour passer d'une marche sur un sol dur à une marche sur un sol mou. Ces problèmes de reconnaissance, évidemment, sont perturbants pour la personne. Elle peut se retrouver dans un environnement de plus en plus inconnu et de moins en moins familier et avec de la difficulté pour adapter son comportement.
Alors justement, j'allais vous demander comment se manifestent ces troubles et au bout de combien de temps est-ce qu'on sait à quoi sont dus ces symptômes très spécifiquement ?
Ces symptômes sont dus à l'évolution des lésions cérébrales, des lésions qui vont s'étendre à différentes régions du cerveau et notamment à cette région qui permet d'analyser les informations que l'on reçoit par nos différents sens visuels, auditifs, olfactifs, tactiles, etc. Et c'est donc, comme je le disais, des troubles qui arrivent à des stades évolués de la maladie. Ce sont a priori pas des symptômes qui s'expriment en début de maladie, mais évidemment qui ont un retentissement, notamment quand il s'agit de la reconnaissance visuelle, de la difficulté à reconnaître les visages. Ça peut être très déstabilisant pour l'entourage qui peut avoir le sentiment que la personne ne les reconnaît plus du tout et qu'elle n'a plus de lien affectif avec ses familiers. Alors, il y a plusieurs choses dans cette reconnaissance des proches. Il y a aussi que la personne, du fait de ses troubles mnésiques, de ses troubles de mémoire, quand il s'agit de son mari ou de son fils, peut avoir en mémoire une image de ce mari ou de ce fils bien antérieure au jour d'aujourd'hui, au présent. C'est-à-dire que la personne peut avoir en mémoire l'image de son mari quand il avait 40-50 ans, sauf qu'aujourd'hui il en a 80. Ce qui peut se passer, c'est que la personne prenne son mari pour son père, par exemple, ou prenne son fils pour son mari, comme si il y avait une génération qui sautait. Donc on voit bien que la personne reconnaît du familier chez ses proches, reconnaît qu'il s'agit de membres de la famille et de membres très familier, mais ne va plus forcément donner, nommer correctement chacun d'entre eux. Donc c'est sûr que c'est déstabilisant pour le fils ou le mari confronté à cette situation. Les recommandations, c'est pas forcément dire à la personne qu'elle a tout faux et que elle se trompe, mais réintroduire les bons éléments, c'est-à-dire que le mari peut se renommer. Peut dire, ton mari t'apporte des gâteaux pour le goûter, de redonner la bonne information, sans insister sur l'échec, finalement, de la personne.
Alors, même si c'est un signal qui dit que la maladie s'est aggravée, est-ce que la personne malade, elle, se rend compte de ce glissement, si j'ose dire ? Ça doit générer pas mal d'angoisse, non ?
Il n'y a pas toujours une reconnaissance du fait que les choses ne puissent plus être reconnues, justement. Et c'est pour la raison pour laquelle il ne sert à rien de la reprendre continuellement et d'insister sur le fait qu'elle échoue, qu'elle n'exprime pas la bonne réponse. Mais c'est évident que ça peut générer, bien sûr, de l'anxiété quand un proche n'est plus appréhendé comme un familier et que la personne peut avoir le sentiment que c'est quelqu'un d'étranger qui est auprès d'elle et qui a peut-être des gestes tendres ou des gestes affectueux, et la personne peut ne pas comprendre finalement la situation et en avoir, mais souvent on va dire que l'anxiété est partagée, puisque pour les proches c'est difficile de s'entendre dire monsieur ou madame quand on est un fils ou une fille, quand on est un conjoint ou une conjointe. Donc ça génère de part et d'autre, on va dire, de l'anxiété. Ce qu'on peut aussi dire aux aidants, c'est que peut-être que la personne visuellement va avoir de la difficulté à identifier son proche, mais peut-être qu'avec le son de la voix, avec certains gestes affectueux, il y a quelque chose qui va se reconnecter du familier. Donc il faut ne pas hésiter à utiliser tous les canaux sensoriels pour se manifester et donner une information la plus complète possible à la personne malade. Et puis rien n'empêche de redire à la personne malade que on est quelqu'un de sa famille, qu'on est quelqu'un de proche, que l'on a des sentiments pour elle, tout ça va créer une ambiance rassurante, une ambiance sécurisante, va aider de toute façon à ce que la relation soit de meilleure qualité possible.
Alors justement, pour terminer, puisqu'on parle de l'entourage, quel conseil donner pour faire face à ce trouble-là ?
C'est vraiment de ne pas le prendre, d'essayer, c'est facile à dire, pas toujours à vivre, mais de ne pas le prendre comme une agression finalement, comme quelque chose qui vient nous remettre en question, même si on comprend bien que ce soit difficile à vivre quand on a, 40, 50 ans de vie commune et qu'à un moment donné, la personne nous méconnaît finalement, ne nous reconnaît plus. C'est très douloureux. Après, on voit aussi que la personne peut avoir des difficultés à reconnaître ses proches en fonction du contexte. C'est pas toujours pareil. Enfin, il y a des moments où elle peut reconnaître ses familiers et puis d'autres où ça va être plus compliqué. Donc, essayer de ne pas le vivre avec trop de difficultés et ne pas en vouloir à la personne et ne pas lui renvoyer son incompétence en quelque sorte et le fait qu'elle ne manifeste plus de sentiments à son tour pour son entourage.
Merci beaucoup Judith Mollard-Palacios de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.
Merci à tous.
Et on vous retrouve la semaine prochaine pour le 6e et dernier épisode qui sera consacré aux troubles de l'humeur et du comportement. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir et poser vos questions à tout moment sur l'espace commentaire de la radio ou la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. À très bientôt et prenez soin de vous.
Vos questions, nos réponses.